après rentrer chez vous, vous allez recevoir un appel.
Ils nous ont dit restez sur place. Ne quittez pas.
La fête nationale va être particulièrement magique. On va lâcher notre fou.
Bonne fin de journée, tout le monde. Journée grise hein, pour lancer les festivités de la fête nationale du Québec, alors que ben, c'est la flotte sur une partie du Québec, dont dans la vieille capitale, où va se dérouler en fait le grand spectacle de ce soir, celui qui va lire le discours patriotique. Marc Labrèche, vous l'avez vu brièvement en entrée d'émission, il sera avec nous un peu plus tard. Et parlant de plus, ben, on verra si ça provoque des craintes du côté du secteur de l'Abbé à Saguenay, où les autorités sont à trouver un logement en ce moment à tous les sinistrés. On va parler au coordonnateur des mesures d'urgence de la ville de Saguenay. Mais d'abord, c'est confirmé, le pape François va venir au Canada à la fin du mois de juillet, malgré quelques problèmes de santé. Une visite très attendue par les Premières Nations qui demandent des excuses pour le rôle de l'Église catholique dans la gestion des pensionnats autochtones. On fait le point avec notre invité Alain Pronkin, spécialiste des religions. Bonsoir Alain.
Bonsoir Michel.
Merci d'être avec nous. Le Vatican qui a annoncé aujourd'hui officiellement, puis c'est ce que bien des gens attendaient, l'itinéraire du pape qui va passer quelques jours au Québec.
Oui, et ce qui est important de souligner, c'est oui, on a eu l'itinéraire aujourd'hui, oui, on a eu la confirmation de sa visite, mais il va falloir attendre encore jusqu'à environ 4 juillet, parce que la dernière fois en Afrique, il avait annulé son voyage 10 jours après. Donc, on va attendre.
Alors, mais parlons de cet itinéraire-là. Pour l'instant, ce qu'on en sait...
Ça va être un itinéraire qui va être éprouvant pour le pape. Il va partir de Rome le 24 juillet.
Il va se traverser, il va
un vol direct jusqu'à Edmonton. C'est au-delà de 10h30
d'avion.
Et là, à Edmonton, bien, c'est la première journée, le 24,
il se repose. Le lendemain, le 25, c'est là où on va prévoir plusieurs activités. Il va rencontrer les Premières Nations, il va rencontrer les victimes des atrocités qui ont été commises dans les pensionnats jusqu'à... il va y avoir une messe devant 60 000 personnes au Commonwealth Stadium. Mm-hmm. Ça, c'est le devant 60-65 000 personnes.
Quand même, hein?
Par la suite, là, il va faire un déplacement vers la ville de Québec. Et c'est ça qui est important. Il va arriver à la citadelle de Québec. Là, il va rencontrer sûrement... Ça, on a des images d'hier du pape quand il était en audience générale. Mm-hmm. Alors, il va rencontrer la gouverneure générale du Canada.
Il va rencontrer le premier ministre du Québec, M. Legault. Et il va avoir des rencontres protocolaires.
Et il y aura une messe à la basilique Saint-André.
Le lendemain. Et ça, ce qui est important, cette messe-là, on attend 20 à 25 000 personnes. Mais les gens qui veulent assister à tout ça, le rendez-vous est aux plaines d'Abraham. C'est sur les plaines d'Abraham que ça va se passer.
Le gros rassemblement. Ça va attirer des milliers de personnes. Et vous dites, il faut attendre encore un peu parce qu'il y a eu des annulations, deux voyages récemment, celui au Liban, celui en Afrique, qui ont été annulés, quoi, 10 jours après la publication de l'itinéraire de voyage. Donc, c'est comme si c'était dans 10 jours. C'est à cause de sa santé. Comment il va, le pape?
Bien, ce qu'on dit... Bien, là, on le voit hier. Hier, il allait quand même très bien.
Il était de bonne humeur. Il a parlé à
tout le monde. Il est resté une heure sur la place Saint-Pierre. Il a fait son audience générale. Et il a parlé aussi
du vieillissement, parce que c'est un thème qu'il aborde depuis un mois.
Et même, il a dit, ce qui est important, c'est que j'ai bien vécu...
Et il y a aussi « J'ai gardé la foi ». Et il parle du temps où il faut céder sa place. Il est revenu sur des textes de Saint-Pierre avec Jésus dans l'Évangile de Jean.
Mais ce qui est important, c'est ça. Il parle de ça, il a des douleurs aux genoux, il ne peut pas se déplacer.
Il se déplace en fauteuil roulant. Ça complique un peu le voyage. Parlons, Alain, de l'importance de ce voyage-là, parce qu'il est déjà venu, il y a un pape qui est venu en 84, en 2002 également, ça attire des fous. Il y en a qui disent, c'est vraiment important cette visite-là, mais celle-là, elle a vraiment revêt un caractère historique pour les communautés.
En règle générale, un pape fait des voyages qu'on appelle pastoraux. Il va rencontrer les gens pour parler, mais de choses importantes. Mais là, il vient s'excuser, il vient reconnaître. Et c'est très rare qu'un pape fait des excuses. Et là, il vient s'excuser pour la colonisation des Premières Nations, pour ce qu'on a fait, pour les enfants qui ont été abandonnés dans les pensionnats, pour les enfants qui sont morts dans les pensionnats, qui ont été enterrés sans sépulture et dont on n'a jamais informé les parents de la situation. Il vient parler d'une question grave et il vient s'excuser. Donc, c'est un voyage très important et pour l'Église et pour les Premières Nations. Et là, il va falloir qu'ils disent, bien, voici la démarche qu'on va entreprendre. Voici ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut marcher avec les Premières Nations ou on fait comme on s'est excusé, maintenant le dossier est clos? Et là, il va falloir qu'ils ouvrent les dossiers de tous ces pensionnats-là, les dossiers qu'il y a à rendre.
C'est énorme comme gain, on pourrait dire, de la part des communautés autochtones qui ont réussi à le convaincre, en quelque sorte, de venir s'excuser.
Oui.
On aurait pu parler également des rumeurs concernant la renonciation, une espèce de démission là, qui pourrait faire. En une phrase?
En une phrase, on va le savoir après le consistoire qui a eu lieu à la fin du mois d'août, où il va nommer 15 personnes qui vont voter pour sa succession sur un total de 120.
Bon. Et pour l'instant, il devrait passer au Québec. D'ici là, on va suivre ça. Alain Pronquin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Bonne journée, Michel.
Maintenant, parlons du conseil municipal de Saguenay qui a prolongé l'état d'urgence en vigueur dans le secteur La Baie où est survenu un glissement de terrain et où il y a des résidences qui seront démolies. Vous savez, on vous en parlait hier pour laisser place à des travaux importants. On en parle avec Carole Girard, il est coordonnateur des mesures d'urgence de Ville de Saguenay. Bonsoir, M. Girard.
Bonsoir.
Au moment de la visite du premier ministre hier et des rencontres avec les sinistrés, il s'est dit beaucoup de choses. En ce moment, quelles sont vos priorités? C'est de reloger tout ce monde-là?
Tout à fait. Notre priorité a toujours été, de toute façon, la sécurité des citoyens impliqués. Notre priorité à ce jour, c'est de reloger ces gens-là. Aujourd'hui, on peut confirmer que 100% des personnes qui étaient logées dans des hôtels ont pu obtenir un appartement avec les meubles requis. Donc ça, ça nous libère effectivement là, une surcharge ou un fardeau de la part de ces personnes-là. Il va rester effectivement quelques personnes la semaine prochaine qu'on va devoir prendre en charge également, qui sont déjà logées soit dans des amis, chez des amis, des parents, etc. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, ceux qui étaient logés à l'hôtel vont pouvoir regagner un appartement.
Bon. On sait que ça pourrait être long. Les sinistrés qui pourraient retourner dans leur maison vont devoir attendre entre 2 et 4 mois pour retrouver leur résidence. Expliquez-nous brièvement, qu'est-ce qui est si long?
Bien, effectivement, ce qui est long, c'est tout le processus. À l'heure actuelle, les tests ne sont pas encore terminés. Il faut que les experts du MTQ élaborent un scénario, un plan d'action pour pouvoir corriger la situation. Là, on rentre après ça dans tout le processus de plein de vie. De retrouver un entrepreneur pour pouvoir faire les travaux. Et il faut comprendre que c'est un travail excessivement minutieux du fait que c'est excessivement dangereux. Le risque imminent de glissement est toujours présent. Donc, c'est un travail qui va être fait de façon méticuleuse. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Et à partir de ce moment-là, bien écoutez, là, au fur et à mesure, on verra l'évolution de la situation. Il y a toujours des imprévus. Mais
Espérons que ça va se faire rapidement.
Oui, effectivement. Donc, on devrait être entre 2 et 4 mois être capable de finaliser le dossier. Espérons-le s'il n'y a pas d'autres problèmes en cours de route. Mais normalement, là, jusqu'à date, tout va bien. Le processus fonctionne bien. On est très, très en avance dans notre procédure. Mais comme je vous disais, la priorité, c'est les citoyens. Mm-hmm. Ils sont en sécurité présentement, donc on peut prendre le temps de faire les choses. Donc, ça va bien.
Alors, on rappelle, il y a une pente quand même très, très abrupte. Et là, vraiment, le travail, ça va être pour stabiliser tout ça. Il y a 4 maisons qui seront démolies. Il y en a d'autres qui pourraient être détruites. Le premier ministre a parlé hier d'une augmentation de l'aide financière, 375 000 $ pour la reconstruction des résidences qui devront être démolies. Est-ce que c'est suffisant, selon vous?
Bien, à mon avis, c'est suffisant. Je pense que le premier ministre a rencontré les citoyens. Il nous a fait part, effectivement, de son intention. Donc, les gens semblaient satisfaits. Je pense que c'est vraiment très généreux de la part du gouvernement d'avoir augmenté le programme. Et je pense que les citoyens vont pouvoir être reconnaissants de l'empathie que le gouvernement a envers eux. C'était un enjeu majeur, puis ça enlève un fardeau vraiment important sur le dos des citoyens d'avoir un programme vraiment amélioré.
Bon, parlons un peu de météo, parce que je regardais, il y avait quand même de la pluie, peut-être des orages de prévu en fin de journée chez vous à Saguenay. Je ne sais pas s'il pleut en ce moment, mais c'est quoi le sentiment? Parce que j'imagine que quand il y a un morceau de terrain qui risque de glisser, quand il y a de la pluie, bien, ça fait monter l'inquiétude.
Bon, effectivement, sauf qu'en ce moment, il ne pleut plus. Donc, le beau temps est revenu. Non, effectivement, de toute façon, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, le risque d'effondrement est toujours présent. Mais il faut être sans crainte. Tout le site au complet est sécurisé, surveillé. Donc, moindrement qu'il y a effectivement un problème ou un mouvement, on va être alerté et les gens vont pouvoir réagir. Mais à l'heure actuelle, de toute façon, les gens sont évacués. Il n'y a pas personne qui va être en danger, même s'il y avait un autre glissement. C'est l'important.
Monsieur Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Plaisir.
Au revoir. Bye. Vous êtes encore nombreux à espérer avoir votre passeport à temps pour un voyage et tous les yeux sont vraiment tournés vers le fédéral depuis des jours. On attend la prochaine décision de la ministre Karina Gould, celle qui va enfin... en fait, la décision qui pourrait mettre fin à cette crise-là, qui n'est toujours pas terminée, même si demain, c'est un jour férié, les gens qui ont réellement besoin de leur passeport seront servis, selon elle. Il faut que ça change pendant, selon François Legault.
Les gens qui voyagent, que ce n'est pas imminent, alors pas dans les prochaines 12 à 24 heures, ils vont recevoir un rendez-vous soit le vendredi, soit le samedi. Les bureaux ne sont pas ouverts au public ces jours-là.
Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'ajouter du personnel, de trouver les ressources pour réduire cette attente-là. Mais ça relève du gouvernement fédéral. Mais je trouve ça inacceptable en 2022.
Bon, en attendant, il y a la nouvelle mesure des coupons. Salut, Emmanuel.
Salut, Pierre.
T'es retourné, toi, aujourd'hui, dans les bureaux de passeport. T'avais rencontré des gens hier. Tu leur as reparlé aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que la situation s'est améliorée?
C'est une bonne question. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est les mêmes visages qu'on voit à peu près au même endroit dans la file. Des visages qui sont plus fatigués, qui ont passé la nuit sous la pluie. Les gens venaient me voir spontanément pour me parler. On sent que le moral est très bas, surtout avec la Saint-Jean, la fin de semaine qui arrive et l'incertitude que ça apporte par rapport à l'ouverture ou non des bureaux. Par contre, on sent que les services sont plus organisés. Là. Il y a un système qui se met tranquillement en place. Il y a davantage de communication avec les citoyens. Le problème, c'est que les gens sont extrêmement sceptiques. Ils n'ont plus confiance en ce que les autorités leur disent. Il y a clairement un lien de confiance qui est brisé entre le gouvernement et les citoyens qui ont passé plusieurs nuits dehors. Vous allez le voir, c'est quelque chose. On s'est vu hier midi, il faisait beau. Là, vous avez passé la nuit sous la pluie. C'était les orages. Comment ça s'est passé?
Bien, en fait, on s'est relayé, mon conjoint, ma belle-mère. Et là, nous, parce qu'on part demain matin, bien là, on a réussi à être dans une fameuse liste qui, apparemment, vont nous appeler parce qu'ils vont essayer d'imprimer le passeport d'ici la fin de la journée. Il y a tellement de différentes informations. Le plus important, c'est d'être sur place et de suivre l'information qui est donnée par les gens du centre.
Alors, pour tous ceux qui voyagent après midi demain et qu'on a pris vos informations de transfert, vous pouvez rentrer chez vous, vous allez recevoir un appel. On va vous appeler, espérons, avec un lieu de cueillette à Montréal cette fin de semaine avant votre date de voyage.
Vous voyez, hier, ils ont dit la même chose, puis ils ont fait rentrer 40 personnes. Après, c'est tout du blabla, c'est juste pour faire sortir le monde.
J'attends l'appel. Alors, on attend ça depuis vendredi passé. Et là, encore, on me dit qu'on va m'appeler. Mais là, on n'ose pas quitter parce que la règle peut changer d'ici 4 heures. Là.
J'imagine la peur de vous dire qu'en fin de semaine, si les bureaux sont pas ouverts, du moins pour entrer.
Mais ça, c'est nébuleux parce qu'hier, les nouvelles, ils nous disaient que ça serait ouvert exceptionnellement. Hier, ils nous ont dit ici, quand je suis venue, il y a un monsieur qui a dit non, ça sera pas ouvert parce que les effectifs ne veulent pas rentrer. Puis là, tantôt, ils nous ont dit que ça serait ouvert pour le pick-up seulement. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Puis ça se peut que ça soit pas ici, notre pick-up, ça se peut que ça soit ailleurs.
Monsieur, le dossier est avec moi.
Oui.
Parce qu'il faut faire.
Vous pouvez rester voir, mais je ne sais pas si on va avoir la capacité de vous servir.
C'est un peu plus organisé aujourd'hui à Guy Favreau, mais les gens sont toujours aussi désespérés. Au lieu de distribuer les coupons aux premières personnes dans la file, comme on l'a fait hier matin, on a distribué des coupons, mais aux gens qui partaient dans les prochaines 48 heures. Donc, il y a certaines personnes qui se sont faites sortir de la file alors qu'ils étaient derrière des personnes qui attendaient depuis plus longtemps. Et une fois qu'on reçoit son coupon, on rentre à l'intérieur, on reçoit un rendez-vous.
Notre passeport nous demande soit qu'il est déjà transféré ici ou ils vont les imprimer. Donc, techniquement, on devrait pouvoir avoir des passeports.
À quelle heure est votre rendez-vous?
2 heures.
14 heures, vous restez sur place, vous prenez pas de chance?
C'est sûr qu'on sort plus.
Bon, malgré ce dossier chaud, les vacances parlementaires sont commencées à Ottawa. Les députés vont retourner dans leur circonscription pour l'été. Le retour en chambre est prévu au mois de septembre, en présentiel, quoique les députés ont voté aujourd'hui pour demeurer partiellement en télétravail jusqu'en 2023. Salut, Étienne.
Michel.
Alors, ça a été quoi, le dernier vote en chambre sur, justement, ce retour en présentiel après une saison pas mal occupée?
Absolument, absolument, qui a commencé en janvier. On sait qu'à la mi-saison, à mi-parcours, il y a eu ces manifestations à Ottawa. Ça a perturbé un peu les travaux parlementaires. Mais là, ça s'est terminé avec un marathon d'adoption de projets de loi, notamment cette semaine, la loi sur la radiodiffusion qui a été transformée, une réforme importante. Il y a eu plusieurs annonces également en matière d'environnement, en matière de pollution et de contrôle des armes à feu. Ça, par contre, ça n'a pas eu le temps d'être adopté en chambre cette semaine. On n'a pas eu le temps. Ça devrait revenir à l'automne. Il faut dire que les libéraux, quand même, ont été pas mal aidé dans leur démarche par le NPD. Il y a eu cette alliance-là qui a été annoncée il y a quelques mois. Et ça fait aussi que Justin Trudeau, ben, même s'il est minoritaire, il ne partira pas en élection cet automne. Pour l'instant, il est bien dans le ciel. Il va pouvoir relancer ses projets de loi à l'automne.
Les élections seront ici, au Québec.
Exactement.
On se souviendra également que cette saison, ça a été une session, en fait, de déchirement entre Québec et Ottawa.
Oui, beaucoup de bras de fer entre François Legault et Justin Trudeau, notamment sur le contrôle de l'immigration francophone, notamment également sur la langue de travail dans les entreprises fédérales au Québec. Est-ce que ça peut se faire en français ou en anglais? Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, puis cet automne, ça va se continuer, ce bras de fer-là.
Mais Justin Trudeau, Mélanie Joly n'était pas là pour cette fin de session?
Non, au Rwanda, ils sont à Kigali pour le sommet du Commonwealth. Il y a Justin Trudeau qui a annoncé aujourd'hui 150 millions en aide alimentaire. On peut l'écouter à ce sujet-là, d'ailleurs.
C'est un moment où on fait face à énormément de défis dans le monde. Et c'est important, donc, de pouvoir se rassembler dans ce voyage-ci avec des pays africains, de l'Asie, d'ailleurs, des Caraïbes, pour justement contrer ces défis que nous, on reconnaît chez nous avec l'inflation, avec les coûts de la vie, mais aussi ces impacts qu'on a sur les gens à travers le monde. Le Canada a un rôle important à jouer.
En fait, 250 millions en aide humanitaire pour les pays qui sont frappés de plein fouet par les conséquences de l'invasion russe en Ukraine. Le Canada dit qu'il veut prendre sa place, veut faire sa part pour essayer de contrer ce qui se passe avec le conflit. Et également, il a annoncé l'ouverture d'un haut commissariat au Rwanda parce que le Canada, dit Justin Trudeau, veut reprendre sa place dans la diplomatie internationale.
Merci beaucoup, Étienne. À plus tard. Au retour, ben, on parlera de la fête nationale, des festivités qui commencent avec le porte-parole de cette année. Vous l'avez vu brièvement, c'est Marc Labrèche. Il sera avec nous en direct. Partout au Québec, la fête nationale sera célébrée ce soir et demain. Les traditionnels grands spectacles sont de retour à Montréal et à Québec. C'est Marc Labrèche qui en est le porte-parole cette année. C'est lui qui va lire le discours patriotique ce soir. On le joint à Québec, à quelques heures de sa montée sur la scène des Plaines d'Abraham. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, tout le monde. Ça va bien?
Ça va bien. Et vous, moi, j'avais une question. Est-ce qu'on réfléchit longtemps lorsqu'on a une invitation comme celle-là? Puis qu'est-ce qui nous fait dire oui?
Le premier couple qui est installé. Bien, j'y réfléchis pas si longtemps, honnêtement, pas parce que j'ai fait ben oui. Non, ça m'a étonné beaucoup, en fait. Ça m'a étonné, puis ça m'a honoré, puis ému en même temps. Mais là où j'ai réfléchi, évidemment, c'est je me suis dit est-ce que c'est pertinent que je sois là? Est-ce que j'ai quelque chose à dire de un minimum pertinent et intéressant? Ou en tout cas, qu'est-ce que je veux dire, là? Qu'est-ce que j'ai à dire? Lors de cette soirée-là, puis ça m'est monté assez spontanément, en fait, que c'est le devoir de mémoire, en fait. Peut-être à cause des deux ans qu'on vient de traverser, peut-être à cause du temps qui passe, personnellement, peut-être à cause de l'arrivée dans ma vie d'un nouveau petit-fils, j'ai peut-être naturellement ressongé, repensé à ceux qui étaient là avant nous, puis ceux qui ont construit, qui ont traversé aussi des épreuves, qui ont bâti, qui ont eu leur lot de frustrations puis de défaites. Puis c'est à eux que j'ai eu envie de peut-être saluer, peut-être pour l'unique fois dans ma vie, l'opportunité qu'on me donne de dire « Hey, si tu avais une chose à dire aux gens avec qui tu vis, puis à la terre sur laquelle tu t'appartiens, puis tu marches depuis 60 ans, ça serait quoi? » C'est dans cette là, mais j'ai pas la prétention d'avoir un grand message à livrer, sinon mais, celui de mon cœur, finalement.
Mais pourquoi c'est important, justement, ce devoir de mémoire?
Vous avez entendu des voix?
Bien, c'est parce que je sais pas si les gens crient beaucoup. Ça crie. J'ai l'impression d'entendre beaucoup de cris. Puis que ces cris-là, des fois, m'empêchent, moi, juste de respirer les choses autrement, puis j'entends plus mes murmures que je m'envoie à moi-même, puis j'ai juste envie d'être comme... J'ai envie de prendre de plus en plus des temps d'arrêt pour sortir de ce tourbillon-là, puis essayer de réfléchir, de faire le point, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux faire de bien, juste de bien, et puis de...
Donc, c'est une occasion ce soir, penser... quoi, de prendre un temps d'arrêt tous ensemble.
Pour
se souvenir. Marc Labrèche, la fête nationale, c'est une fête nationaliste ou souverainiste pour vous?
C'est tout ça à la fois, honnêtement, là. Je veux dire, c'est une fête qui s'est dépolitisée de plus en plus, je pense, qui aura toujours sa figure puis son épice politique, si on veut, mais je pense que l'imagerie de la fête même, puis son sens même, est beaucoup plus inclusif depuis quelques années. Puis mm-hmm. ça tarde beaucoup plus à essayer d'inclure tout le monde. On n'est plus dans le vieux débat de la souveraineté. La souveraineté se manifeste de bien des façons.
Ouais,
bon. Il y a bien des façons d'être patriotique. Tu sais.
En terminant,
c'est vrai.
Il reste une trentaine de oui. secondes. À quoi on peut s'attendre comme spectacle ce soir?
Ah, ben, c'est un spectacle. D'abord, c'est les retrouvailles. Autant pour les gens sur la scène qui se retrouvent et qui ont préparé le spectacle depuis trois semaines, autant que pour les gens qui vont être sur les plaines ce soir et qui vont se déplacer. Fait qu'il y a une espèce de fébrilité générale sur le plaisir de se retrouver. Mm-hmm. Je pense que tout le spectacle va être teinté de ça.
Bon.
Puis évidemment, ben, tout le monde est généreux puis tout le monde a envie d'avoir du plaisir.
Alors, on souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir et pas trop de parapluie ce soir. Marc Labrèche.
C'est ce qu'on souhaite. Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon spectacle.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Oui, bonne Saint-Jean, tout le monde. Bye.
Bon, parlons d'un autre sujet qui revient régulièrement ces jours-ci, l'inflation qui continue de grimper, les difficultés de recruter de la main-d'œuvre, la concurrence avec le marché international. La saison 2022 est déjà difficile pour les producteurs maraîchers du Québec. Mais voilà qu'il y a plusieurs d'entre eux qui doivent conjuguer avec une diminution importante de la demande pour leur panier bio après avoir connu pourtant des années records durant la pandémie. Fanny Lachance-Paquette a rencontré une productrice qui espère toujours de nouvelles inscriptions.
Au cours des dernières années, il fallait s'y prendre tôt si on voulait s'abonner à un panier bio. Il y a des fermes qui, dès le mois de mars, avaient des listes d'attente pour la saison estivale. On a un tout autre portrait cette année, selon le réseau des fermiers de famille qui regroupe 150 fermes maraîchères, principalement au Québec. On a une diminution cette année de 15 % des abonnements. Ça représente au moins 4000 familles en moins.
Alors, dans cette serre, on a des poivrons, des aubergines et des haricots grimpants. Dans trois semaines à peu près, on devrait commencer à en mettre dans les paniers. Cette année, c'est difficile. On ne comprend pas trop pourquoi. Les deux dernières années, avec la COVID, il y a eu vraiment un engouement. Les gens ont eu le temps de lire sur le sujet, de prendre le temps de regarder, puis il y avait un peu plus de temps de cuisiner. Là, cette année, on ne sait pas si c'est l'inquiétude de l'inflation qui fait que là, bien, les gens sont un peu plus freinés ou est-ce qu'ils partent en voyage, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'abonner au panier parce qu'ils ne sont pas là pendant deux, trois semaines, un mois. Mais la majorité des fermes ont des arrangements pour les voyages, bien, pour les vacances en général. Ici, c'est le basilic.
En temps normal, vous avez combien de paniers?
Nous, à notre ferme, on veut livrer 500 paniers par semaine. C'est à peu près 150 personnes qui nous manquent. Ça fait que c'est beaucoup.
Puis pour vous, ça a des conséquences, j'imagine, parce que vous avez prévu bien, pour
oui.
500 paniers livrés
oui.
par semaine?
C'est ça, ça stresse pas mal. Ça empêche de dormir parce que là, il a fallu planifier. Nous, la saison commence en février-mars. Donc, toutes les cultures sont démarrées pour livrer 500, 600 paniers même par semaine. Et là, bien, les employés sont là, les frais sont là. Et là, il faut que la rentrée d'argent vienne aussi.
Cette diminution de clients-là, ça vient en plus avec une période où c'est particulièrement difficile d'arriver financièrement. Tous les coûts ont augmenté. Là.
Tout augmente.
Est-ce que vous avez dû cette année augmenter le prix des paniers?
On a augmenté un peu le prix des paniers. Par semaine, ça a augmenté comme de 3 $ par semaine.
Est-ce que c'est peut-être avec l'inflation? Les gens ont peut-être l'impression que ça va être moins cher à l'épicerie s'ils achètent des produits qui viennent de l'extérieur du pays. Et
oui, ils ont peut-être cette impression-là, malgré que les paniers, ce qui est réconfortant, c'est que le prix est stable pour la saison. Fait que c'est vraiment mystérieux pourquoi les gens pensent que le bio est plus cher et le bio est pas accessible. En général, vraiment, les paniers sont dans... Les gens qui prennent des paniers disent « Ah, oh, mon Dieu, mais tu sais, à l'épicerie, j'en ai pour plus que ça, pour la même quantité, puis même pas bio. » Fait que c'est vraiment une incompréhension de notre part. Puis on a un bouquet de menthe, on a du mesclun, des pommes de terre, de l'ail.
Oui, il faut que ça bouge pour que vous arriviez.
Il faut que ça bouge, on n'a pas le choix. Sinon, il faudrait vraiment... va falloir s'asseoir puis réfléchir plus, là.
Sylvain Charlebois est professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. Il est avec nous. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, Michel.
Les paniers bio étaient en hausse de popularité, et pas à peu près. Est-ce que tu as des réponses à donner à ces producteurs, peut-être les éclairer un peu? Qu'est-ce qui explique ce ralentissement?
Ben, en fait, c'est qu'une inquiétude là, qui est palpable. Là. Les consommateurs se réorientent un peu. On est à la chasse d'aubaines. Puis probablement que ces solutions-là sont perçues comme étant des solutions qui sont chères. Alors, c'est vraiment ça qui se passe actuellement sur le marché.
Est-ce que c'est vrai, les ça? Grandes... Parce qu'avec tout ce qui augmente, ouais, ben... tous les prix qui augmentent, est-ce que justement, peut-être que c'était vrai que les paniers bio étaient peut-être un petit peu plus chers avant, est-ce que là, c'est vraiment le cas?
Moi, j'inviterais les gens de faire leur devoir parce que souvent, d'ailleurs, la semaine passée, on publiait un rapport avec Aliments du Québec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les produits québécois sont toujours plus chers. C'est pas vrai. En fait, dans 70,83% des cas, le produit québécois est soit aussi compétitif ou même moins cher que les produits qui arrivent d'ailleurs. Pour ce qui est du maraîcher comme tel, là je ne sais pas, j'ai pas évalué le panier comme tel, mais moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des aubaines puisque il y a beaucoup de fluctuations à l'épicerie. Tandis que dans ce cas-ci, là, on vous garantit un prix fixe pour l'année. Là.
C'est quand même... Ces temps-ci, une garantie de prix fixe, là?
Oui, c'est comme aller à la pompe. Ouais. C'est comme avoir notre pompe à gaz puis avoir le même prix pour tout l'été.
On prendrait ça, hein? On prendrait ça. Hey, moi qui vais faire de la route en fin de semaine, je n'ose pas trop y calculer. Hey, après une première hausse de 8% du prix du lait, je voulais qu'on parle du prix du lait. Ça, c'était en février dernier. Ouais. Il y a la Commission canadienne du lait qui annonce une deuxième augmentation de 2,5% dès le mois de septembre. Qu'est-ce qui explique cette hausse-là, cette plus récente?
Ben, en fait, c'est que les producteurs de lait ont demandé à la Commission une autre hausse. On a consulté très rapidement en deux jours. Là, on n'a pas donné la chance aux transformateurs et d'autres paliers au sein de la chaîne de se préparer. Mais on est allé de l'avant avec un 2,5%, ce qui est... En fait, moins que je m'attendais. Je m'attendais à plus que ça, mais quand même, c'est un 2,5% qui va arriver en septembre durant la rentrée scolaire lorsque la demande pour le lait liquide augmente. Donc, les familles vont voir que leur lait coûte plus cher. Ce qui arrive, Michel, là, actuellement, là, avec la hausse de février, c'est que les produits alternatifs comme les laits à base de soya, amandes, avoine, sont tous moins chers que le lait ordinaire maintenant. On pourrait inciter les consommateurs à aller ailleurs. Là.
Bon, donc, il y a des produits qui profitent de cette augmentation du prix du lait. Mais il y en a d'autres qui vont... on va payer plus cher d'autres produits parce que le lait, on le retrouve dans toutes sortes de choses. Là.
Ah, c'est sûr. Donc... Là, tout dépendant de ce que la régie des marchés agricoles va décider de faire, là, j'ai l'impression qu'on va aller avec un 2,5% de plus. Le lait, il est quand même assez cher là, au Québec. Il y a d'autres produits qui vont être affectés, comme le beurre. Le beurre, Michel, a augmenté de 20,4% depuis un an au Québec.
C'est rendu un produit de luxe?
C'est incroyable. Je suis sûr que vos auditeurs se sont aperçus que la section laitière... À l'épicerie, c'est rendu cher. Là. Puis j'ai l'impression que le 2,5% à l'automne, on va ajouter un 3-4% de plus pour le yogourt, le fromage, tout ça. Tous ces produits-là, là, j'ai l'impression que ça va être plus difficile.
Alors, ça devient là, des produits de base qui sont de plus en plus touchés par cette augmentation-là. C'est vraiment ce à quoi tu t'attends au cours des prochains mois?
La plus grande attitude que j'ai, c'est qu'on perd une ferme laitière par jour au Canada. Puis avec cette augmentation-là, on va inciter les consommateurs à aller voir ailleurs, malheureusement.
Bon, c'est pas très encourageant. Puis pour ce qui est des paniers bio, bon, on va faire nos devoirs, comme tu le dis.
Faisons notre calcul. Exactement.
Hey, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous.
Bonne Saint-Jean-Baptiste.
Bye-bye. À toi aussi.
Bye-bye.
On en parlait tantôt, c'est le retour des grands spectacles de la Saint-Jean, de la fête nationale un peu partout au Québec. C'est le cas évidemment à Montréal où les festivités musicales vont commencer vers 21h. On va joindre tout de suite mon collègue Louis-Philippe Bourdeau qui est à la place des festivals. Bonsoir Louis-Philippe.
Salut Michel.
Un grand premier spectacle de la fête nationale sans mesures sanitaires. Ça va tout être un changement. Ça va se passer sous la pluie à Montréal?
Voilà, Michel, tout ne peut pas être parfait. En effet, la pluie qui tombe en ce moment sur Montréal, et ça va être comme ça une bonne partie de la soirée. et de la nuit. Mais tu l'as dit, après 2 ans de pandémie, bien là, les mesures sanitaires sont tombées et on nous promet un très grand spectacle et surtout un retour à la normale, au spectacle, aux festivités qu'on a connues dans l'ère pré-pandémie. Je parlais avec le maître d'œuvre du spectacle ce soir. Il me disait, on le prépare depuis janvier, cet événement, autant côté technique que la programmation. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, donc la pluie ne nous empêchera pas d'agir. Résultat, bien, il y a une trentaine d'artistes invités, musiciens, danseurs, chanteurs qui vont fouler la scène ici. D'ailleurs, on est encore en train de pratiquer le grand spectacle. C'est Sarah May que vous entendez en ce moment. Et outre Sarah May, bien, il y aura Fouki, Les Louanges, Patrice Michaud, Roxane Bruno. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, on a assisté plutôt à des répétitions. On a pu parler à certains des artistes qui espèrent très fort que la pluie ne va pas gâcher la fête.
Comme on dit, on a tellement vécu 2 années et demie bizarres que c'est peut-être dur de ressortir un peu de ça, mais justement, le fait de s'amuser, c'est comme ça qu'on va, on va juste être mieux là-dedans, puis on va bien s'en sortir.
Pour moi, la Saint-Jean, tu sais, je veux dire, je suis une fière québécoise, puis je suis super contente de venir comme représenter un peu la musique québécoise, tu sais, sur la scène. Fait que c'est très significatif. Je suis très, très honorée d'être là. Ouais. On la mérite, cette fête nationale-là, justement, après 2 ans de pandémie, puis c'est pas parce qu'il pleut qu'on va pas la fêter. Fait que on vient, on met nos ponchos, on apporte un petit parapluie, puis ça va être trippant, même s'il fait beau.
On est fait fort au Québec, hein, la pluie. On peut vivre avec ça un peu, même si on a hâte d'avoir un peu plus
on
de soleil.
Avec ça, Michel.
Bon, le premier ministre François Legault, qui était à Montréal aujourd'hui, puis il en a aussi profité dans son discours pour parler de sa vision de la fierté québécoise.
Voilà, le premier ministre va passer les festivités ce soir dans sa circonscription du côté de l'Assomption. En effet, il était de passage à Montréal pour des annonces en culture. Et là, il a voulu expliquer pourquoi cette fête nationale est importante cette année, pourquoi surtout bien, le nationalisme et la fierté québécoise ont été très importants pour traverser la pandémie. Voici le premier ministre.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, la fierté d'un peuple. Je regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans avec la pandémie. Quand il est temps de passer au travers des épreuves, c'est important qu'il y ait un peuple, une nation, quelque chose qui nous lie, qui fasse qu'on serre les coudes. Mais il faut qu'il y ait un sens à donner à ce travail qu'on fait, ces efforts collectifs. Puis pour ça, on a besoin de la fierté.
Donc, je rappelle, Michel, ça débute à 21h, ce sera jusqu'à 23h. Pour les courageux, bien, il y a un DJ jusqu'à minuit. Et sinon, bien, demain, il y a la fête qui se poursuit dans plusieurs quartiers du Grand Montréal. Donc, vous pouvez consulter le site de la fête nationale pour avoir tous les détails.
Et on apporte parapluie et ce qu'il faut pour se protéger.
Et poncho.
Oui, merci beaucoup, tu as bien raison. Bye-bye. Bonne fête nationale.
Salut.
Il y a le ministre de la langue française, Simon-Jolin Barrette, qui est de passage à Paris. Il a prononcé également, lui, un discours, mais devant l'Académie française, dans lequel il a notamment parlé des défis du français au Québec. Il a aussi expliqué les tenants et aboutissants de la loi 96, soulignant son importance pour la survie de la langue française au Canada.
Quel message envoie l'État lorsqu'il suggère que le français est optionnel? Quel message envoyons-nous aux citoyens ainsi qu'à ceux qui viennent nous rejoindre? Un de nos plus grands défis est d'associer les personnes immigrantes à notre projet national. La dynamique linguistique continentale et mondiale favorise en tout point l'anglais. C'est pourquoi la loi 96 consacre un nouveau chapitre à la langue commune. Elle rappelle que le français est une langue d'intégration, un principe d'unité et un vecteur précieux de participation à notre vie démocratique.
OK, Junior, maintenant, la Coupe Memorial se poursuit à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et les champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Cataractes de Shawinigan, vont jouer leur deuxième match ce soir. Ils vont affronter les champions de la Ligue ontarienne, les Bulldogs de Hamilton. J'en parle avec mon collègue Olivier Caron, qui est sur place. Salut, Olivier.
Salut.
Comment les joueurs se sentent à l'approche du match?
Je dirais que les joueurs des Cataractes sont très détendus, et ça autant lorsqu'ils se présentent à nous lors des entrevues que lors des entraînements. On les voit avec le sourire au visage, on les voit très calmes, peu stressés, et c'est une approche qui fonctionne bien à Shawinigan depuis quelques semaines, et on veut garder ça pendant le tournoi. On veut s'assurer que les joueurs aient du plaisir, même dans un moment qui peut être super stressant. Il faut dire qu'on affronte une très bonne équipe ce soir, les Bulldogs d'Hamilton, qui ne sont pas à prendre à la légère, donc c'est peut-être une bonne attitude à garder du côté de Shawinigan, parce que les Bulldogs sont capables de profiter de toutes les chances de marquer qu'on va leur accorder. Donc, du côté de Shawinigan, on dit que ce sera très important d'éviter le banc des pénalités, parce que mardi, on l'a vu, les joueurs ont été plutôt indisciplinés.
Bien sûr qu'on est prêt, on s'est préparé un matin, on s'est dégourdi les jambes, on a fait du vidéo, puis je pense qu'on a confiance en notre staff, notre équipe, puis on est prêt à affronter les Hamilton.
C'est juste de respecter notre game, t'sais, une équipe de même, ça serait facile de se perdre, puis essayer d'en faire trop offensivement, puis c'est dans ce temps-là qu'on tombe dans le panneau un peu de jouer leur game d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que ça va être important de respecter notre game, garder ça simple en début de match.
On s'attend à une équipe qui a perdu son premier match, qui va être un peu désespéré d'en vouloir en gagner. C'est un tournoi qui est très rapide.
Bon, Olivier, les Cataractes ont vraiment le contrôle sur leur destin dans ce tournoi. Qu'est-ce qu'une victoire ce soir veut dire pour la suite des choses?
Bien, ça voudrait dire qu'on se qualifie automatiquement pour la demi-finale lundi soir. En fait, les Cataractes n'ont qu'à gagner un des deux prochains matchs pour s'en aller directement en demi-finale. Vous le voyez au tableau, au classement, les Cataractes qui sont présentement deuxièmes derrière les Sea Dogs de Saint-John avec un point de retard, mais un match en main. Donc, en l'emportant ce soir, on accumule 3 points au classement grâce à la nouvelle formule cette année ici à la Coupe Mémorial. Et donc, on s'en va directement en demi-finale. Du côté des joueurs, bien, on n'y pense pas trop encore pour l'instant. On se concentre vraiment là, sur l'action qui se déroulera ici sur la glace ce soir.
Il y a plusieurs scénarios possibles. D'autres, notre but, c'est vraiment juste de gagner chaque match et de se présenter. Fait que c'est sûr que oui, ça pourrait être une belle chose de gagner en soi et s'assurer un poste, mais je ne trouve pas de quoi qui nous mette de la pression en ce moment. Bien, nous autres, on veut gagner tous les matchs. Fait que c'est sûr que là, tu viens de l'apprendre. On n'était pas au courant. Fait que c'est sûr que les gars, on veut gagner. Puis plus qu'on gagne, plus c'est bon signe. Fait que peu importe où que ça va nous mener, on veut gagner en soi. Là.
Alors, ben bon match, Olivier. On en reparle bien sûr les résultats ce soir à 22h. Merci. Bye-bye.
Merci. Bonne soirée.
Et du hockey, on va parler de basketball parce que c'est soir de repêchage dans la NBA à Brooklyn. Et ce sera assurément une soirée très spéciale pour un Montréalais, Bénédicte Mathurin. L'athlète de 6 pieds 6 pouces, oui, devrait sortir en première ronde, ce qui serait une première en 37 ans pour un joueur québécois. On va faire le point avec notre collègue d'RDS, Alexandre Tourigny. Bonsoir, Alexandre.
Bonsoir.
Pour ceux à la maison qui ne suivent peut-être pas le basketball, c'est qui précisément Bénédicte Mathurin?
Bon, c'est la grande question. Les gens qui suivent justement le basketball connaissent Bénédicte Mathurin depuis des années. On vous en parle. On s'attendait à ce qu'il soit un choix de première ronde et c'est exactement ce qui se passe ce soir. Bon, pour les gens à la maison, Bénédicte Mathurin a le potentiel de devenir le meilleur joueur québécois de l'histoire, de un. Mais Bénédicte Mathurin va également rapidement être une vedette dans la NBA, ce qui est absolument phénoménal. Ce soir, Mathurin qui va devenir le 8e Québécois de l'histoire à être repêché. Un 4e seulement imaginé depuis l'an 2000. Mathurin vient d'avoir 20 ans, dimanche à peine. Il a terminé sa deuxième saison avec l'Université Arizona. Il a été absolument phénoménal. Et écoutez, il a décidé de revenir pour disputer une deuxième saison du côté de l'Université Arizona, même si peut-être il avait voulu être éligible au repêchage la saison dernière. Il répète, un choix de première ronde, fin de première ronde l'an dernier. Il a décidé de revenir finalement, Bénédicte Mathurin. Donc ce soir, sera repêché entre les rangs 5 et 11, potentiellement le Québécois repêché le plus hâtivement, assurément. Ouais. Il sera derrière moi dans ce qu'on appelle la fameuse Green Room. Donc les 20 meilleurs espoirs s'asseoiront derrière moi et patienteront, attendront d'entendre leur nom être appelé patiemment.
Bon, et tu as rencontré des gens de Montréal-Nord qui l'ont côtoyé, justement, qui vont regarder attentivement le repêchage ce soir.
Exactement, parce qu'il faut savoir, il y a 3 joueurs présentement dans la NBA. Lugansdor, Chris Boucher, Kem Birch, 3 joueurs québécois. Il n'y en a aucun de ce lot qui a été repêché. Et Bénédicte Mathurin l'a déjà dit. Moi, je veux devenir vraiment un modèle, une idole pour les jeunes joueurs de basket québécois. Voici donc ce qu'on a recueilli.
Merci beaucoup, Alexandre.
Bonjour, Bénédicte. Tout Montréal avec toi. Bonne chance. J'espère que tu seras admis à la NBA. On est tous fiers de toi.
Tu m'inspires quand je joue au basket, beaucoup. J'espère que tu vas rentrer à la NBA. C'est un rêve pour moi, comme je pense tout le monde.
Il y a plein de jeunes qui voudraient être à votre niveau, qui voudraient atteindre la NBA. Et puis, je vous souhaite que vous rentrez à la NBA.
Tout Montréal est derrière toi, Bénédicte Mathurin. On compte sur toi. Tu es capable d'aller à la NBA. Tu vas être un bon joueur, je sais.
Je suis un gars d'Adélard Desrosiers comme toi. J'ai suivi ton parcours depuis que je suis au primaire. Et je te souhaite une bonne chance pour ton entrée en NBA.
Alors, c'est à surveiller ce soir. Maintenant, Parlons de l'Ukraine, parce que ça fait 120 jours que l'invasion russe a commencé et pour une rare fois, bien, les Ukrainiens ont eu droit à une bonne nouvelle. L'Union européenne a accepté la candidature du pays. C'est la première fois que ça se fait aussi rapidement que ça. C'est évidemment une décision lourde de sens que viennent de prendre les pays occidentaux. Mais attention, le président de la France a averti qu'une adhésion définitive de l'Ukraine, on parle d'une candidature, une adhésion définitive pourrait prendre plusieurs décennies. Et toute une décision vient d'être prise par la Cour suprême des États-Unis. Les juges ont invalidé une loi de l'État de New York qui statuait que les Américains ont le droit de transporter une arme à feu dans les lieux publics sans permis. Ça veut dire qu'à peu près n'importe qui peut avoir un pistolet à la ceinture. La décision risque d'avoir des impacts dans une dizaine d'États et c'est loin de faire l'unanimité. On peut le comprendre avec les fusillades qui sont survenues au cours des dernières décennies. On est rendu à 279 fusillades depuis le début de l'année. Après deux ans de pandémie, les robes de bal sortent enfin des placards pour tourner sur les pistes de danse. Au retour, on parle de nos finissants. Il y a des élèves qui célèbrent la fin d'une étape importante, hein, leurs études secondaires. Et cette année marque le grand retour des bals de finissants après deux ans d'interruption. Le gouvernement a donné son feu vert au retour de cette tradition en mars. Une annonce sur laquelle il n'y a heureusement pas eu à revenir. Ça fait plaisir aux jeunes. Ma collègue Anaïs Elbouchdaini a pu d'ailleurs suivre quelques finissants dans leurs robes et leurs habits de soirée.
C'est plaisir de passer un moment tous ensemble et tout. Tu sais, après, avec les années Covid, tout ça, bon, on veut s'ambiancer, on veut passer un bon moment tous ensemble. That's it, c'est ça.
Est-ce que vous attendiez à avoir un bal?
Au début, non. À cause des conditions sanitaires, mais après, on a vu que ça commençait à bien se développer. On a vu qu'il y avait un bal. On était contents. On était contents, très contents même.
Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre bal cette année?
Bien, dans mon cas, personnellement, ça me rend très heureuse parce que j'étais comme un peu stressée. Parce que les années précédentes, ils n'avaient pas eu de bal. J'étais comme, oh, le bal de finissant, c'est quand même le truc le plus important de ton secondaire. Fait que si j'en ai pas, je serais vraiment triste. Fait que le fait qu'on ait la chance de l'avoir, pour moi, c'est comme vraiment, genre, je suis vraiment contente, honnêtement.
Bien, on est vraiment heureux. Là, on est excité pour la soirée. Fait que c'est un moment grandiose pour nous. Vraiment un truc magnifique aujourd'hui. Fait que ça fait vraiment plaisir, ça donne le sourire.
C'est un moment de célébration, on est entre camarades, entre copains, un moment de commémoration aussi, on a nos anciens enseignants, ces personnes-là qu'on ne verra peut-être plus jamais, mais qui ont, pour la plupart, eu un impact significatif dans nos vies. Donc, pour moi, c'est vraiment une grâce que d'être réunis ici tous ensemble et célébrer pour une dernière fois notre passage au secondaire.
S'il y avait eu la COVID, évidemment, ce serait pas passé. Ça aurait été vraiment dommage. Il y a une chose aujourd'hui, que les mesures ont changé et qu'on est capable d'avoir ce bal enfin tant attendu.
Allô, maman! Honnêtement, à chaque mois, je me posais des questions. Est-ce qu'on va être confiné? Est-ce qu'on va avoir un bal? Et puis les élèves, quand j'ai dit qu'ils vont avoir un bal au mois d'avril, au mois de mars, ils disaient « Oh non, on n'aura pas de bal ». Et puis moi, en même temps, c'était une sorte de récompense pour eux, de mission accomplie. Et le fait qu'ils vont avoir un bal, et puis je suis très content et heureux pour eux.
Ils attirent les caméras.
C'est un travail de au moins minimum 11 mois. 11 mois de travail, et puis avec des collègues. J'étais pas tout seul, mais il y avait plein de collègues qui ont travaillé là-dessus. Et c'est le résultat aujourd'hui. Ça valait la peine d'attendre deux ans à cause de la pandémie.
Je le perçois comme une récompense pour tous les efforts qu'on a dû fournir durant ces deux années, ma foi, difficiles. Puis fier d'être, disons, la première promotion d'après COVID à célébrer le bal en compagnie de mes camarades. C'est une belle chose.
Moi, je pense que l'école pendant la pandémie, ça a été difficile, surtout avec les cours à distance. C'est différent, c'est plus dur. On ne voit pas tout le temps nos collègues et tout.
On est vraiment honorés de recevoir ce bal qui, malgré tout, est une grande page dans la vie d'un adolescent, dans la vie de tout individu. Et honnêtement, on est fiers de pouvoir tenir un bal.
Mmh. Rebonsoir, Étienne.
Rebonsoir, Michel.
On va parler de sirop d'érable parce que ça a été une année productive. On a battu des records.
Record de tous les temps battu dans la production de sirop d'érable au Québec. 211 millions de litres cette année. Le dernier record, c'était en 2020, 175 millions. Mais là, 211 millions. Les régions, les meilleures régions, le Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Estrie, Centre-du-Québec, c'est là qu'on a produit le plus cette année. Grâce à une météo exceptionnelle, c'est bon parce que la réserve stratégique là, du Québec était basse et qu'à l'international, le sirop est plus en demande que jamais.
Et à 22 heures, tu vas revenir sur la question des passeports.
Oui, avec Jacob Charbonneau de Vol en retard qui va répondre à plein de questions là-dessus. Puis également Maud Cohen, nouvelle directrice de HEC, qui va être avec nous comme
invitée. Entrevue. Bien, bonne émission.
Polytechnique, en fait, Polytechnique, c'est la première femme qui dirige Polytechnique. Là.
Bonne émission.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était la dernière édition du Fil 17, version 1 heure à compter de demain. On vous propose 30 minutes d'information dès 17h30. C'est d'ailleurs Étienne, mon collègue Meeker et Sabrina qui seront avec vous au cours des prochains jours. Moi, je vous retrouve mardi au Fil 17h30. Maintenant. Passez une excellente fin de semaine, un beau long congé et une très belle fête nationale. Mardi.